Sajo et ses castors par Gray Hall, sixième cassette, première face, page 178. Comme je l'ai indiqué à la fin de la première face de la cinquième cassette, la deuxième face de la cinquième cassette est de mauvaise qualité, je n'ai donc rien enregistré dessus. Chicani commençait seulement à se remettre de sa déception lorsqu'il se passa quelque chose qui lui fut plus pénible que tout le reste. Un jour, une femme indienne, la tête recouverte d'un châle de couleur vive, s'approcha de l'enclos. Dès qu'il l'aperçut, Chicani se rua jusqu'à la clôture et tendit ses pattes à travers les barreaux en poussant un cri perçant de peur qu'elle ne passât sans le voir. Alors la femme s'arrêta et lui parla. Et les sons qui sortaient de sa bouche étaient pareils à ceux qu'il avait entendus si souvent chez lui, au pays indien. Mais ce n'était pas la même voix. Quand il eut flairé la femme et vu son visage, il lui tourna le dos et revint d'un pas traînant vers sa hutte vide, plus abattu, plus découragé que jamais. Il avait cru que c'était Sajo. Néanmoins, ce petit événement le stimula et fit naître en lui de nouveaux espoirs. Il s'imagina qu'un jour Sajo viendrait, et dès lors il fut toujours sur le qui-vive. L'après-midi, beaucoup de gens visitaient le parc, et la plupart s'arrêtaient devant sa cage pour voir comment un castor était fait, mais il ne faisait jamais de longues stations. À nombre d'entre eux, Chicani faisait simplement l'effet d'un jeune chien qui aurait le poil épais et la queue plate. Certains le regardaient d'un œil distrait, d'autres avec curiosité. Quelques-uns lui jetaient des bâtons et lui parlaient d'une voix rauque qui lui faisait peur. Un très petit nombre le plaignait, et parmi eux, un ou deux seulement étaient gentils et lui donnaient des cacahuètes ou du sucre candi. Mais aucun d'eux n'était Sajo. Jamais il ne voyait le visage qui l'attendait, jamais il ne sentait l'odeur de la petite main tant aimée. Et cependant, il était sûr qu'un jour, une voix bien connu, appellerait Chicani, que les petites mains brunes dont le contact avait fait si souvent frissonner d'aise son petit corps l'enlèverait du sol, et alors, oh alors quelle joie de fourrer de nouveau son museau contre un cou doux et tiède et de demeurer là un instant, tout haletant, puis de s'endormir et d'oublier. Ainsi il passait des heures entières à épier, attendre, espérer. Plus tard, sur sa couchette de la cuisine, il se remémorait d'une façon vague et confuse les jours qui semblaient maintenant lointains, oh, si lointains, et pensait à la chambrette qu'il partageait avec Chilaoui sous le lit de Chapian, et qui était leur domaine à tous deux, à la petite hutte de castor branlante, et à toutes les autres entreprises auxquelles ils avaient si bravement travaillé ensemble. À la longue, il devint indifférent à tout et ne s'occupa plus de personne, même dans la cuisine du gardien où on le croyait heureux de se trouver. Il cessa de jouer avec les enfants et négligea sa fourrure qui s'en mêla. Il finit par refuser de manger et on le vit rester assis, une pomme intacte entre ses pattes de devant, sa petite tête inclinée, les yeux clos. Rêvait d'eux dans son sommeil. Car les animaux, vous le savez sans doute, font des rêves. Souvent, tout comme vous et moi, ils se réveillent épouvantés par un cauchemar. Et d'après les soupirs de contentement qu'ils poussent en dormant, ils doivent aussi avoir des songes agréables. Un soir, il s'éveilla d'un rêve où il avait vu ses amis si nettement qu'il se crut une fois de plus retourné près d'eux dans son ancienne demeure. Il se leva et parcourut en gémissant la cuisine. Il les cherchait et ne les trouvant point, se mit à sangloter tout haut de solitude et de détresse. Et tandis qu'il pleurait ainsi, sa voix ressemblait à celle d'un petit enfant abandonné. Car il ne savait pas comment aurait-il pu le savoir? Qu'à à peine un kilomètre de là, dans une maison semblable, il y avait un autre petit castor exactement pareil, en compagnie de deux jeunes indiens, un grand garçon à l'air fier qui se tenait droit comme une flèche, et une fillette coiffée d'un châle aux couleurs vives, lesquels, trop émus pour essayer même de dormir, attendaient le jour avec impatience. Dans un coin de la pièce était posé un panier qu'il aurait tout de suite reconnu, un vieux panier usé en écorce de bouleau. Oui, vous l'avez deviné, Sajo et Chapian venaient enfin d'arriver. Chapitre 14. Patrick, le policeman. Quand le train qui transportait Sajo, Chapian et leurs petits compagnons fit le dernier de ses nombreux arrêts dans la gare de la grande ville, les enfants étaient si effarouchés qu'ils n'osèrent pas d'abord en sortir. Le chef de train qui avait veillé sur eux durant tout le trajet les aida à descendre, leur dit quelques mots d'encouragement, puis les laissa pour s'acquitter de ses fonctions. Ils se trouvèrent plongés en plein tohu-bohu. La ruée des voyageurs, le sifflement de la vapeur s'échappant des locomotives, le tintement des cloches, les coups de sifflet perçants et le souffle bruyant des locomotives qui arrivaient ou repartaient, il y avait de quoi les assourdir et les épouvanter. La main dans la main, ils demeuraient sur le quai, sans savoir où aller, sans même oser bouger. Devant, derrière, de tous côtés, régnait une effrayante confusion et un tapage ininterrompu. Des charrettes à bagages sur lesquelles s'empilaient très haut des colis de toute espèce roulaient avec fracas. L'une d'elles arrivait droit sur eux et Chapian eut juste le temps de tirer sa sœur de côté pour l'empêcher d'être renversée. Cette gare leur faisait l'effet d'une vaste caverne sonore remplie de visions et de bruits terrifiants et jamais jusqu'alors ils ne s'étaient sentis si petits et si abandonnés. Au milieu de cette foule, il se trouvait plus seul que dans la forêt, parmi les arbres silencieux et paisibles. Des gens les regardaient au passage avec curiosité, mais tous étaient trop pressés pour faire vraiment attention à eux. Aussi, ces deux enfants des terres de silence demeuraient-ils sur place dans ce vacarme assourdissant, aussi effrayés, aussi désorientés et presque aussi impuissants que les deux tout petits castors lorsque Longue Plume les avait trouvés flottant sur la rivière des bouleaux jaunes. Sajo, cependant, malgré tout son effroi, ne pensait qu'à une chose, c'est que Chicani avait subi seul toutes ses terreurs. Chapian, pour son compte, aurait préféré se retrouver dans la forêt en feu, parmi les animaux familiers. Quant à Chilaoui, il avait fermé ses deux oreilles comme deux petites bourses noires et se tenait parfaitement immobile, tapi dans un coin de son panier. Ils attendaient ainsi depuis un temps qui leur semblait une heure, bien qu'en réalité ce ne fût que quelques minutes, et Chapian se demandait s'il n'allait pas se diriger vers une immense porte par laquelle la foule s'écoulait comme une rivière rapide, quand un jeune garçon s'arrêta devant eux. À peu près de l'âge de Chapian, il était vêtu d'un bel uniforme rouge dont la courte veste ajustée était garnie d'une rangée de boutons brillants et il portait de côté sur la tête quelque chose qui ressemblait plutôt à une toute petite boîte ronde qu'à un chapeau. « Hé les gosses !» leur dit-il avec bonne humeur. « Vous êtes perdus ? Qui cherchez-vous ? » Devant ce magnifique personnage rempli d'aisance, le pauvre Chapian, qui n'avait jamais vu de chasseur d'hôtel, sentit lui échapper le peu d'anglais qu'il savait et ne put se rappeler qu'un mot. « Policeman !» balbutia-t-il timidement. « Ah, tu veux voir un policeman ?» dit le chasseur qui était un gaillard intelligent et comprenait les choses du premier coup. « Ok, venez avec moi !» Et leur faisant signe de le suivre, il partit à grande allure le long du quai sur le sol dur duquel claquaient ses talons luisants. Les petits indiens, chaussés de mocassins silencieux, se glissait sans bruit derrière lui au petit trot pour ne pas se laisser distancer. Chapian, portant d'une main le panier de Tchilaoui et tenant solidement de l'autre la main de sa sœur. Cela faisait un curieux cortège. Les dirigeant à travers la foule, leur guide leur fit franchir la porte et traverser un grand hall encore plus encombré de voyageurs. Presque tous les habitants de la terre devaient se trouver là, pensa Chapian. Et les conduisit vers un grand et gros homme qui se tenait à l'autre extrémité, près d'une porte. Cet homme avait également beaucoup de boutons brillants sur sa veste. « Dites donc, Pat !» lui cria le chasseur. « Voici une paire de gosses qui veulent voir un policeman !» Il poussa ceux-ci en avant et continua sans façon. « Ce n'est pas que vous soyez difficile à voir. Vous êtes assez gros comme ça. Ils m'ont tout l'air d'être des Indiens. Attention à votre chevelure, ce doit être des chasseurs de scalps. » Là-dessus, il adressa une grimace impertinente à l'agent, un clignement d'œil aux enfants, s'enfonça dans la foule et disparut.
« Oh !» s'exclama bruyamment l'agent de police, en se penchant les mains derrière le dos pour considérer les deux petits bonshommes. « Oh ! On fait la chasse aux chevelures ?»
Et il fixait sur eux un regard terrible, comme s'il allait les mettre en prison. Mais ses yeux pétillaient et ses paupières se plissaient drôlement.
« Alors c'est vrai que vous êtes de jeunes Indiens ? Pauvre petiot ! Eh bien c'est une triste chevelure que vous prendriez, car voilà bien 20 ans que mon crâne est aussi chauve qu'un œuf. Le petit garnement qui vous a amené le sait bien. »
Ce policeman avait la carrure d'un Père Noël. Bien qu'il parlât d'un air farouche, sa figure était ronde et joviale, et il portait son casque un peu de travers, comme si les fonctions d'agent de police étaient des plus divertissantes. Mais voyant que les petits commençaient à avoir peur, il prit une voix plus douce, ou qu'il considérait comme telle.
« Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?»«
Vous, policeman ?» interrogea timidement Chapian.
« Oui, mon garçon, » répondit le représentant de l'ordre en poussant son casque un peu plus de côté. « Je suis un policeman et des meilleurs, car les oreillis ont toujours été de fameux lapins. Et là, qu'est-ce qu'il y a dans ce panier ?»
Car Tchilaoui venait de se mettre à gémir. « Amic, » répondit Chapian en soulevant le couvercle pour qu'il pût voir. « Amic !» répéta-t-il. Alors, à sa grande surprise, le policeman partit d'un immense éclat de rire.
Oh, 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 amic qu'il m'appelle. Il a tout de suite vu que j'étais Irlandais.
Le policeman, Oreilly, est un Irlandais, comme son nom l'indique. O apostrophe, suivi de quelque chose, c'est des noms irlandais. Amic veut dire A-M-I-K-A. Veut dire castor en indien, comme tu le sais déjà, et E, mic, A, plus loin, M-I-C-K, veut dire un Irlandais en style familier.
Mic, qu'il m'appelle, il a tout de suite vu que j'étais un Irlandais. Malin comme un singe, ce jeune païen. Oui, tu l'as dit, mon garçon, je suis un mic, sûr et certain que je suis un mic.
Car il était extrêmement fier d'être Irlandais, et s'était imaginé que Chapian l'avait deviné lorsqu'il avait entendu ce dernier prononcer le mot « amic ». L'agent jugeait le jeune Indien fort intelligent d'avoir ainsi découvert son origine, et Chapian, en l'entendant répéter qu'il était « amic », en conclut qu'il appartenait à une tribu d'hommes blancs qui s'appelait les castors, dénomination qui leur faisait vraiment beaucoup d'honneur. Ceci leur donna une opinion favorable l'un de l'autre et les mit tout de suite dans les meilleurs termes.
« Et où voulez-vous aller ?» demanda l'agent de police.
Chapian avait oublié non seulement son anglais, mais aussi la lettre que lui avait remise Cheveux jaunes. L'un lui revenant à la mémoire, il se souvint de l'autre et tirant l'enveloppe de sa poche, la tendit à l'agent.
« Bon, je vois, » dit celui-ci après avoir lu l'adresse. « Pour l'instant, je suis de service et je ne peux pas m'absenter. Mais asseyez-vous ici un moment et tout à l'heure je vous conduirai. Patrick Aurélie lui-même veillera à ce qu'il ne vous arrive aucun mal. » Il tapota la tête de Sajot avec bienveillance, et comme Chapian était enfin arrivé à lui dire en anglais ce qu'était Chilaoui, il demanda à regarder le castor et le qualifia de jolie bestiole d'après ce qu'il en voyait. Or, il n'en voyait guère, car notre hardi Chilaoui était devenu des plus timides. Jugeant sans doute par ce qui se passait que la fin du monde était arrivée, il rentrait la tête, la queue et les pattes pour se faire aussi petit et, pensait-il, aussi invisible que possible. Assurément, on ne voyait pas beaucoup de sa personne pour l'instant. Nos deux voyageurs, qui se sentaient beaucoup plus à l'aise, s'assirent au bout d'une longue rangée de sièges et attendirent. Le gros policeman, qui paraissait s'amuser de tout et de rien, leur posa de nombreuses questions, et Chapian, ayant retrouvé son anglais, lui raconta une partie de leurs aventures. Le joyeux Irlandais en fut tout remué et dit que lui, Patrick Aurélie, les conduirait en personne chez les propriétaires du parc. « Et c'est moi-même qui leur dirai la vraie vérité vraie, et dès demain encore !» Et il était si ému, le digne homme, qu'il s'embrouillait un peu dans ses discours. « Il y avait de quoi arracher des larmes aux yeux d'un cœur de pierre, déclara-t-il, et de quoi fondre les bougies d'un arbre de Noël. » Un peu plus tard, il fut relevé de sa garde par un autre agent qui le plaisanta sur sa petite famille, et ils sortirent tous les trois dans la rue, où il y avait moins de monde, moins d'agitation et moins de bruit que dans la gare. Le nouvel ami de nos jeunes Indiens parlait presque tout le temps, s'efforçant de les mettre en confiance, et Chapian lui répondait dans son anglais bizarre et incorrect. Tout yeux et toute oreille, Sajot écoutait, bien qu'elle ne pût pas comprendre un traître mot de leur conversation. Mais elle sentait qu'ils étaient tous deux en sécurité, près de ce gros homme vêtu de bleu, et maintenant que ses craintes avaient disparu, elle avait presque envie de crier de joie. Chicani n'était-il pas ici même, dans cette ville, dans cette rue peut-être? Elle se mit à regarder avec amusement les spectacles merveilleux qui s'offraient à sa vue de tous côtés. Les chevaux, dont elle avait entendu parler, mais qu'elle n'avait encore jamais vus. Les tramways, qui filaient en ligne si droite, sans avoir besoin de cheval pour les tirer, les belles dames dans de belles robes, et par-dessus tout, les brillantes devantures des magasins. Ils passèrent près d'un restaurant, et l'odeur de la cuisine, jointe à la vue de pâtés et de gâteaux des plus appétissants dans la devanture, fit tourner si bien les petits visages fatigués dans cette direction que le policeman les remarqua. En entendant les enfants chuchoter entre eux en indien, il devina tout de suite qu'ils avaient faim.
« Allons bon !» s'exclama-t-il. « Vous voilà affamés, et moi qui parle, comme une vieille commère, tandis que vous êtes sur le point de tomber en faiblesse. Ce n'est pourtant pas l'habitude d'Aurélie de laisser un ami, comme qui dirait, mourir de faim à sa porte. Nous allons entrer ici et manger un morceau. »«
Oui, s'il vous plaît, » dit Chapian. « Ma sœur, avoir faim, depuis longtemps. » Il eût été difficile de dire lequel des deux avait le plus faim. Patrick les poussa dans les restaurants et dès qu'ils furent assis, leur demanda quand ils avaient mangé pour la dernière fois.
Au poste de la compagnie, répondit Chapian. Moi, pas avoir peur. Mais ma sœur, beaucoup peur. Elle restait assise à la même place, pas manger. Moi, soigner ma sœur, pas quitter ma sœur, personne manger. Chilaoui seulement manger un petit bout de bannock.
Tu es un brave garçon, déclara le policeman. Vois-tu les oreillis?
Mais nous ignorerons toujours ce que les oreillis eussent fait dans la circonstance, car au même instant, le garçon entrait avec le repas commandé et les yeux des enfants devinrent aussi ronds et presque aussi grands que des soucoupes quand ils virent le plateau chargé de victuailles d'où se dégageait une joyeuse vapeur.
ces victuailles étaient si alléchantes et sentaient si bon que lorsque les plats furent posés devant eux, le frère et la sœur furent tout abasourdis et Sajo, dans son émotion, se sentit même défaillir. Bientôt, ils furent trop occupés pour parler, regarder, écouter ou faire autre chose que manger. Et de cette besogne, ils s'acquittèrent avec une merveilleuse activité pendant les minutes qui suivirent. Alors, Sajo s'avisa que le pauvre Chilaoui devait avoir faim lui aussi et fit passer quelques bons morceaux de son assiette dans le panier. Bout de pain beurré, de pâté, de beignet, de je ne sais quoi encore, et bientôt Chilaoui fut aussi occupé que ses amis à rattraper le temps perdu. On les avait servis dans une petite salle particulière où ils étaient seuls. Maintenant que le festin était terminé et que personne, y compris Chilaoui, n'aurait pu avaler une bouchée de plus, chacun s'adossa à son siège avec une impression de bien-être. Monsieur Oreilly alluma un cigare. Il se sentait, si la chose était possible, de plus belle humeur encore qu'auparavant, et il enveloppait ses invités d'un regard radieux. Comme il avait retiré son casque, Chapian, qui n'avait plus rien à faire, eut le loisir d'observer qu'il n'était pas aussi chauve qu'il le prétendait. Chauve comme un œuf, avait-il dit, or une demi-couronne de cheveux partant juste au-dessus d'une oreille faisait le tour de la nuque pour arriver à l'autre oreille. Cela représentait une quantité de cheveux respectable, beaucoup plus qu'on n'en pourra jamais trouver sur un œuf. En bonne petite ménagère qu'elle était, Sajo empila soigneusement plats et assiettes sur un coin de la table, prenant grand plaisir à manier toutes ces belles choses. Ces belles choses n'étaient en réalité que de la vaisselle ordinaire, mais Sajo, pauvre petite, n'avait jamais vu de si jolies assiettes, ainsi qu'elle le dit à Chapian quand ils se retrouvèrent seuls. Il faisait chaud dans cette petite salle. Sajo écarta son châle multicolore, laissant voir ses longues nattes noires et brillantes et ses deux yeux bruns illuminés de joie. L'agent de police, voyant pour la première fois son visage bien dégagé, déclara que c'était la plus jolie fille qu'il eût jamais rencontrée depuis qu'il avait quitté l'Irlande, où bien sûr se trouvent les plus belles filles du monde. Quand Chapian lui eut répété ceci, Sajo rougit, baissa la tête et remonta son châle. Mais avec un si brave homme, impossible de rester sur la réserve. Elle surmonta vite sa timidité, et son châle ayant glissé de nouveau, elle le laissa où il était, et rit de tout ce que disait l'agent, bien qu'elle ne pût pas en comprendre un seul mot. Heureux de la gaieté de sa sœur, Chapian riait presque autant qu'elle. Quant à l'officier de paix, Oreilly, pleinement satisfait du succès de sa petite réunion, il s'esclaffait de si bon cœur qu'il dut déboutonner sa veste et tamponner son crâne chauve avec un immense mouchoir rouge qu'il tira de sa manche. On peut donc dire que le plus joyeux entrain régnait dans la compagnie. Chilaoui lui-même fit entendre sa voix et lui et Sajo eurent un petit entretien particulier pendant que M. Oreilly essayait d'apprendre à parler indien avec Chapian. Ses progrès, j'en ai peur, n'étaient pas très rapides. Mais il est un mot dont les Indiens usent très souvent, « keget », qui veut dire « certainement, bien sûr, en vérité », et qui se prononce « keget » quand la certitude est absolue. Comme c'est un mot facile à dire, Pat l'attrapa très vite, et lorsque Chapian lui en eut expliqué le sens, il le répéta jusqu'à ce qu'il fût capable de le prononcer correctement. Après quoi, il le mit à toutes les sauces dans ses discours, et ce fut « keget ceci, keget cela », tant le brave homme était fier de ce mot nouveau. Il expliqua ensuite les plans qu'il avait formés pour le lendemain, en imitant de son mieux l'anglais rudimentaire de Chapian. « Le parc, dit-il dans le style de Chapian, le parc fermé. » Ici, il ferma la porte de la salle avec décision. « Demain, parc ouvert. » Donner argent, castor, venir. Alors, ouvrant la porte toute grande, il fit de son bras tendu le signal « circuler » et se rangea sur le côté, comme s'il s'attendait à voir défiler toute une troupe de castors. Puis il sortit la lettre de sa poche et dit en la tapotant
Moi, aller là-bas demain. Vous, attendre moi. » Et il conclut en brandissant le bras de nouveau. « Que guette !»
Chapian, dont l'anglais n'était tout de même pas aussi primitif, et qui avait peine à s'empêcher de sourire, l'assura qu'il avait bien compris, et le bon monsieur Aurélie, enchanté de sa première leçon d'indien, sentit qu'il ne serait pas long à se familiariser avec cette langue. Il conduisit sans encombre sa petite famille à l'adresse indiquée, la remit ainsi que la lettre entre les mains du directeur de la maison, et s'en alla, après s'être assuré que les enfants avaient bien compris qu'il reviendrait les chercher le lendemain matin et leur avoir recommandé de ne bouger jusque-là sous aucun prétexte. Le directeur semblait les attendre. De fait, il avait déjà reçu un télégramme à leur sujet et lui-même en expédia un dès qu'il eut réglé la question de leur logement pour la nuit. Dans sa modeste demeure, Pat le policeman tenait de son côté une longue conversation téléphonique à leur sujet. Enfin, au lointain comptoir de fourrure de Rabbit Portage, on s'agitait également beaucoup à cause d'eux. Ainsi, nos trois petits voyageurs se trouvaient être l'objet d'un intérêt des plus vifs qu'ils ne soupçonnaient même pas. Là-haut, dans leur chambre, les enfants s'entretenaient avec agitation, mais sans élever la voix, car dans cette grande pièce au mur blanc, ils se sentaient tout petits et comme deux souris qui se seraient faufilées dans une chambre à provision ou dans une église, ils avaient l'impression de ne pas être à leur place. En tout cas, c'était un endroit où aucun accident ne pouvait leur arriver et Chapian profita de la sécurité du lieu pour sortir sa petite liasse de billets d'une bourse en peau de daim suspendue à son cou par un cordon. Il étala les billets sur la table et les déplissa soigneusement un par un. Sajo le regardait faire en hochant la tête aux cheveux de jet comme pour dire « Hein, tu vois bien, tout cela, c'est grâce à mon rêve. » Ils essayèrent de faire le compte exact de leur argent. Debout près de Chapian, la tête penchée de côté, un doigt sur les lèvres, Sajo prenait un air entendu, tandis que son frère, les sourcils froncés, examinait chaque billet de banque avec attention. Mais pour eux, les vignettes n'avaient pas de signification et ils durent bientôt abandonner leurs calculs. En tout cas, convinrent-ils, il y avait là beaucoup d'argent, beaucoup plus d'argent qu'ils n'en avaient jamais vu. Et là-dessus, Chapian replia les billets et remit le tout dans son petit sac sous sa chemise. Car cette somme représentait le prix de la liberté de Chicani et il convenait de ne pas s'en dessaisir un seul instant. Fin de la première piste de la sixième cassette, page 197, Sajo et ses castors, par Gray Hall.